On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Notez bien le nouvel horaire des experts tous les jours, de 9h30 désormais à 10h30, toujours en direct, bien sûr, sur l'antenne de BFM Business. Il est 10h passé de 2 minutes et je suis toujours avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode, et Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. On a beaucoup parlé relations internationales lors de la première partie de l'émission. On va revenir en France là avec la dernière lettre du gouverneur de la Banque de France au président de la République. C'est un exercice classique. Au printemps, le gouverneur fait un peu l'état de l'économie française et adresse aussi quelques conseils économiques, toujours, jamais politiques, bien sûr, mais celle-ci prend une saveur particulière puisque c'est la dernière de François Villeroy de Galhau avant qu'il quitte l'institution financière. Ce sera au mois de juin. La grande question du moment, le grand sujet autour du débat économique, c'est récession ou stagflation. On a eu les résultats en fin de semaine dernière de l'INSEE. La croissance au premier trimestre, c'est zéro. L'inflation au mois d'avril dépasse désormais les 2%. Alors, premier tour de table. Anthony, je commence avec vous. Est-ce qu'il faut craindre un retour de la stagflation? Christine Lagarde a dit non la semaine dernière. La stagflation à la mode des années 70, on n'y est pas du tout. Faut-il alors craindre une récession?
C'est toujours des mots qui font peur, stagflation. Est-ce qu'il y a plus d'inflation ou moins de croissance? Oui. Ensuite, la question, c'est de se dire, quand on dit moins de croissance, est-ce que ça nous emmène dans le négatif? Il est vrai, et ça c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'économie française se porte pas très bien à l'entrée dans le conflit, ou en tout cas quand on va voir les pleins effets du choc.
C'est vrai que le premier trimestre, c'était pour les deux tiers avant le début du conflit.
Exactement. Ça c'est peut-être ce qui est le plus délicat, j'allais dire, c'est que la conjoncture était quand même déjà dégradée. Maintenant, effectivement, si le conflit, on trouve pas d'issue très rapide, on va connaître des trimestres récessifs, probablement. Alors, pas forcément d'une ampleur déraisonnablement négative, mais quand même probablement récessive. Donc, ça peut être une récession technique. Pour l'instant, on voit bien sur l'ensemble de l'année, la prévision qui était de 0,9 du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt en centrale à 0,7, on va dire, quand on recale le T1.
Oui.
Donc, on est toujours dans le positif en moyenne annuelle, mais on sent bien qu'on perd des dixièmes de points de croissance, j'allais dire, mois après mois, à mesure qu'on voit les effets se propager. Donc, effectivement, il y a clairement un risque. Et ce qui est frappant, c'est de voir quand même que la demande interne française, elle est quand même relativement déprimée. On voit des ménages qui n'ont toujours aucune envie de consommer, qui ont un désir d'épargne toujours très fort, et des entreprises qui investissent toujours dans le numérique, parce que ça, c'est un petit peu la partie.
Oui, l'investissement, c'est pas si mal, hein, finalement.
Pas si mal pour la partie servicielle, mais pour tout ce qui est construction et bien d'équipement, pour les investissements capacitaires ou même de renouvellement, là, c'est quand même plutôt dégradé. Donc oui, une économie française qui est quand même sincèrement pas en forme, et il est complètement possible que dès le deuxième trimestre, ou a fortiori le troisième,
oui,
on connaisse un trimestre négatif. En tout cas, ce n'est pas exclure à ce stade, clairement.
Bon, le gouverneur de la Banque de France, lui, dit non, pas de récession.
Sur l'année.
Je précise, lorsqu'on se projette à 3 ans aussi, donne un horizon un peu lointain. Sur l'année, le scénario bas serait à 0,3% de croissance seulement. On recevait ce matin dans la matinale, dans Good Morning Business, le patron de l'URSSAF, Damien Yantil, ex de Bercy. Écoutez ce qu'il nous disait, lui. Il n'est pas si pessimiste que ça sur l'économie française.
Quand on regarde nos chiffres conjoncturels donc collectés par les URSSAF, taux d'impayés, délai, on est encore dans une bonne résilience de l'économie. Donc ça, c'est plutôt assez rassurant. En revanche, il est clair que dans certains secteurs et pour certaines entreprises, on a besoin d'accompagnement. Une des mesures d'accompagnement, c'est, comme vous le dites, l'étalement de cotisations sociales. Quand on regarde au mois d'avril, on a 30 000 délais qui ont été accordés, ce qui est un chiffre équivalent à ce qu'on a pu observer en avril 2025. En revanche, quand on regarde certains secteurs, comme le secteur des transports, par exemple, ou encore de l'hébergement touristique, ou le secteur des infirmières, là, on a une hausse un peu plus marquée du nombre de demandes de délais.
Voilà, donc pour l'instant, on voit que cette crise, elle impacte certains secteurs, évidemment. Hein. On n'est pas surpris que dans le transport, ce soit un peu compliqué. Mais globalement, les impayés sont à peu près au même niveau que l'année dernière. Donc, l'économie tourne, finalement.
Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on voit alors dans les chiffres du premier trimestre, aussi dans ce que dit le gouverneur dans sa lettre. C'est-à-dire, il y a un trou d'air, indéniablement, et c'est normal vu la crise qu'on a. Ensuite, je trouve que agiter les mots récession, stagflation, pour l'instant, c'est un peu prématuré.
On fait peur.
Ça agite le spectre des années 70. Alors, dans la Banque de France, comme beaucoup de prévisionnistes aujourd'hui, elle fait trois scénarios. Le scénario central, défavorable, très défavorable. Son scénario très défavorable, c'est 0,3% de croissance et 3,3% d'inflation. Encore une fois, on n'est pas en croissance négative, on n'est pas en inflation à deux chiffres. Alors, c'est un scénario qui est mauvais économiquement, mais qui n'est pas catastrophique. On peut imaginer pire, hein, évidemment, si la crise dure encore, s'amplifie, etc. Mais je dirais, aujourd'hui, en regardant la situation telle qu'elle est, on a un trou d'air, on a une inflation qui remonte, mais on a l'avantage de partir de très bas. Donc finalement, on remonte autour
plus bas que le reste de
on remonte autour de 2% hein. aujourd'hui. Ouais. On va sans doute passer, voilà, ça va continuer à augmenter un peu, mais on n'est pas dans des niveaux d'inflation même qu'on a connus en 2022-2023. Enfin, on est encore assez loin. On a évidemment des secteurs qui sont très touchés. C'est une crise qui est d'abord sectorielle aujourd'hui. Les secteurs qui sont très dépendants du pétrole, du gaz, donc les secteurs énergo-intensifs. Et quelque part, ça rejoint l'autre partie du diagnostic conjoncturel de François Villeroy de Galhau, qui est de dire il faut garder une réponse qui est ciblée sur les secteurs qui sont vraiment en difficulté. Donc aider les secteurs qui en ont besoin, mais garder, je dirais, la mesure dans la réponse en termes de ciblage. Voilà, mais je ne serai pas aujourd'hui catastrophiste parce que, je dirais, quand le pire scénario que la Banque de France imagine aujourd'hui, ça reste une croissance positive et une inflation à 3%, on n'est pas dans un choc généralisé. Ensuite, il faut surveiller si ça se diffuse à d'autres secteurs, si l'inflation se généralise au-delà, je dirais, dans les chiffres du premier trimestre. Il y a eu des facteurs négatifs, effectivement, l'investissement dans la construction. La consommation, alors du côté de la consommation, il faut faire un peu attention. Là, il y a la consommation d'énergie qui baisse, par exemple, mais juste parce qu'il a fait chaud en février. Par contre, la consommation alimentaire baisse aussi. Ça, c'est un signe qui peut être un peu plus inquiétant. Donc, il faut un peu regarder ces signaux-là pour voir si le choc se diffuse davantage que, je dirais, le périmètre énergie stricto sensu.
La consommation de services se porte plutôt bien. La consommation des biens a rebondi de 0,7 au mois de mars aussi. Donc, c'est compliqué à voir. La grande question, Nicolas, c'est évidemment combien de temps va durer ce conflit, combien de temps les prix à la pompe vont rester au-dessus des 2 euros, j'imagine.
Oui, mais ça, on n'en sait rien.
Eh oui.
On n'en sait rien, puisque la grande nouveauté, en fait, de ces 4 dernières années, c'est que l'économie est soumise à des chocs géopolitiques, en fait.
Ce qu'il dit, le gouverneur, c'est qu'on vit dans un monde de permacrise.
Les difficultés économiques auxquelles on fait face ne sont plus endogènes. Ouais. Elles l'étaient, hein, quand on a commencé notre carrière. La crise de 2008, c'est une crise financière, puis bancaire, puis économie réelle, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, la question, c'est quand est-ce que les bateaux vont repasser dans le détroit d'Ormuz. Donc, c'est absolument exogène à l'économie. Et en plus, radicalement imprévisible au sens le plus fort du terme. Donc, stagflation, non. Parce que stagflation, ça veut dire qu'on a une inflation qui dure, qui s'auto-entretient, etc. Donc, ça, non. Récession, on sait rien. Récession, si le détroit d'Ormuz reste fermé 2 ans, oui, récession. Hein. Au bout d'un moment, ça va être difficile de faire des sacs poubelles sans le pétrole qui vient de là-bas. Donc, vous voyez. En revanche, deux remarques. Première remarque, une difficulté à laquelle quand même il faudrait qu'on réfléchisse un peu en profondeur, surtout au vu des échéances électorales, c'est que la nouveauté de cette crise, c'est qu'on n'a pas véritablement les moyens de mettre en place des dispositifs de soutien un peu conséquents comme on l'avait fait lors de l'invasion de l'Ukraine ou
en 2022,
lors du Covid. Ce que fait le gouvernement, moi je trouve ça parfait. Hein. Il radine et il donne un peu d'argent aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux grands routiers. Je soutiens à fond, hein. C'est parfait. Parce que je considère que faire plus, ce serait finalement ajouter d'une certaine façon un risque de crise financière à une crise géopolitique. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais enfin, c'est quand même un problème sur lequel il faut qu'on se pose 3 secondes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il me semble que dans les analyses économiques qu'on fait, on loupe un peu quelque chose. Et moi, je le vois dans ma pratique professionnelle en termes d'impact sur les secteurs. C'est le fait qu'on a changé de monde en termes de taux d'intérêt. Il y a 4 ans, les taux d'intérêt, ils étaient à 0.
Oui.
Aujourd'hui, ils sont à 4%. On va gentiment vers 4%. On n'y est pas, mais grosso modo...
7% ce matin aux États-Unis,
on va vers 4%. Alors certes, l'inflation n'est pas la même, donc les taux réels ne sont pas... OK. Mais déjà, les entreprises, elles sont plutôt sensibles aux taux nominaux, en fait, plus qu'aux taux réels. Et surtout, je trouve qu'on sous-estime à quel point, pour certains secteurs, c'est un changement de monde. Je vous donner un exemple extrêmement concret. Prenez la promotion immobilière aujourd'hui. Promotion immobilière, moi, les promoteurs, je leur parle, ils me disent, on a un problème, on est coincé. Parce que, en fait, la différence entre nos coûts de structure, après tous les efforts qu'on peut faire, et ce que les ménages peuvent mettre aujourd'hui, il y a 10 points de différence.
Ah oui.
Là, on avec est coincé.
Avec non, le coût des matériaux qui ont flambé au mois de juin et les hausses de prix qui montent. Hein.
Là, on est complètement coincé. Donc, je trouve que ce changement très macro, en fait, ce retour à la normale, parce que 4% de taux à 10 ans, c'est pas...
On a déjà connu ça.
C'est une espèce de logique. Hein, c'est le prix du temps à 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais on a tellement vécu avec des taux d'intérêt qui étaient nuls que ce changement de monde en 4 ans, ce n'est pas très long finalement. Je pense que sur certains secteurs, par exemple en termes de défaillance, il y a beaucoup de défaillances en France, vous le savez, en termes de défaillance d'entreprises, dans des secteurs qui sont très intensifs en capital, dans lesquels les entreprises sont endettées, ou alors dans des secteurs comme l'immobilier, qui sont très liés au niveau de taux d'intérêt, je pense que c'est un facteur absolument majeur.
Et oui, 70 000 défaillances l'année dernière, je le rappelle.
Et on sent que ça souffle dans certains
Anthony.
Secteurs, je pense à l'industrie, ça c'est des secteurs avec lesquels on parle beaucoup, et notamment les énergo-intensifs. Ce qui est triste, c'est qu'ils prennent au fond un second coup de semonce, alors qu'ils ne sont toujours pas remis de 2022. La plupart des industries énergo-intensives, elles ont des niveaux de production qui sont 10 à 15% sous les niveaux qu'elles avaient début 2022. Donc elles partent affaiblies, avec des niveaux souvent de trésorerie et des tensions sur le bilan de manière générale plus fortes. Et donc même si le choc qu'on connaît aujourd'hui peut être éventuellement moins fort que ce qu'on avait eu en 2022, elles sont dans une situation où elles sont beaucoup plus fragiles et précaires. Et donc on le voit bien, vous prenez l'agence de garantie des salaires par exemple, sur le premier trimestre,
les AGS,
dans
oui.
l'industrie, ça fait très mal. Donc il y a quand même des faut être vigilant sur certains secteurs qui malheureusement sont déjà fragilisés et souffrent encore davantage. Donc en plus c'est une crise qui est très hétérogène et discrimine beaucoup au fond entre secteurs.
Bon, est-ce que dit le gouverneur pour terminer aussi ? C'est intéressant, il prend un peu de recul, il donne de la hauteur de vue et il regarde la France ces 15 dernières années pour nous comparer aux performances des autres pays européens. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que économiquement, finalement, on est plutôt dans la moyenne. Finalement, ça va pas si mal que ça. Finalement, le pouvoir d'achat, la progression du pouvoir d'achat des Français. Préoccupation numéro un des Français aujourd'hui, est dans la moyenne de ce qui a été fait ailleurs en Europe.
Ça, j'achète pas du tout, cet argument de François Villeroy de Gallo, parce que, sincèrement, quand vous avez la même croissance que la moyenne européenne, mais que vous avez bazardé les finances publiques, avec donc du soutien permanence en réalité,
oui.
C'est pas la même chose. Vous prenez, prenez le début des années 2000. Quand on fait la zone euro, on a 60% de taux d'endettement public comme l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne aujourd'hui est un peu au-dessus de 60, on est à 115. Bon, entre les deux, la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne peut se permettre des plans de relance absolument gigantesques, peut soutenir la demande pendant des années. On n'a plus un rond. Donc, c'est quand même pas la même chose quand vous faites le bilan. Faut pas regarder que la croissance, mais comment vous avez généré la croissance. Et sincèrement.
Alors, c'est vrai qu'il souligne le côté des finances publiques catastrophiques. Sans faire le lien, forcément.
Oui, mais à la fin, ça joue. Et même le modèle économique tel quel, on a perdu beaucoup d'industries dans la bataille. On a un modèle qui... Alors, on a fait émerger des services plutôt à haute valeur ajoutée, ça c'est très bien, mais on a quand même plutôt une dérégulation, ou en tout cas une déformation qui ne va pas dans le bon sens du modèle économique français, avec un modèle social en plus qui n'est pas soutenable dans la durée. Donc, j'ai beaucoup de mal à trouver qu'au fond, on a une performance moyenne. Je trouve qu'on a plutôt sous-performé, malheureusement, sur les 25 dernières années.
Qu'est-ce que vous retenez, Dorothée, de cette lettre ?
Non, moi je pense que c'est intéressant justement ce qui pointe les points forts et les points faibles en comparaison européenne. Que la croissance est effectivement dans la moyenne, en gros, alors bien inférieure à celle des États-Unis, mais ça c'est plutôt un problème européen qu'un problème français.
Moitié moins.
Sachant qu'au sein de la zone euro, il y a aussi des pays qui sont plus en rattrapage, donc c'est normal qu'il y ait aussi des pays qui sont moins riches que nous et qui croissent plus vite. Donc être dans la moyenne, c'est à peu près normal. Sur l'emploi, on a plutôt... alors on partait plus loin.
C'est la grande victoire des 15 dernières années, dit François Villeroy de Gallo.
Le taux de chômage a nettement baissé, le taux d'emploi a nettement progressé. Sur l'inflation, on le disait tout à l'heure, on a plutôt été plus bas que les autres et ça nous a permis de gagner en compétitivité. En revanche, sur la compétitivité hors prix, le type de spécialisation, le positionnement de gamme, on n'y est pas encore et c'est pour ça que cette compétitivité prix, elle se retrouve pas dans nos parts de marché. Et après, évidemment, ce qui est intéressant, alors je le dirais un peu différemment, mais c'est, il nous dit finalement, en termes de pouvoir d'achat, on n'est pas moins bien loti que les autres en termes de croissance du pouvoir d'achat. En revanche, ce pouvoir d'achat, il a été un peu acheté par les finances publiques. Et donc, quelque part, c'est normal qu'à l'avenir, on fasse plus d'efforts sur les finances publiques et que la priorité absolue ne soit peut-être pas le pouvoir d'achat, mais également, je dirais, utiliser nos finances publiques, je dirais, avec des marges amoindries pour soutenir l'investissement, la compétitivité, qui vont nous faire la croissance de demain, hein, qui sont aussi l'investissement, l'industrie, la compétitivité, l'éducation, et peut-être moins que l'extension du modèle social, qui a été davantage le cas des 15 dernières années.
Oui, et notamment en faveur des plus âgés. Ce qu'il nous dit aussi, François Villeroy de Gallo, je le cite, hein, « Si notre pays poursuit des choix gérontocratiques, il ne pourra pas bien préparer l'avenir. » De quoi il parle là ?
Il parle de cette thématique du conflit de génération là, qui est en train de prendre en France. Mais moi, j'aime pas qu'on parle comme ça, en fait. J'aime pas qu'on parle comme ça, parce que je pense que notre pays, il est très divisé, que le débat public en ce moment, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, avec des invectives dans tous les sens. Et je comprends bien évidemment ce qu'il veut dire. Il fait allusion au fait que on n'a pas désindexé les retraites sur l'inflation, qu'il y a un certain nombre de choix budgétaires qui profitent plus à ceux qui sont inactifs, et en particulier retraités, plutôt qu'à l'éducation ou à l'enseignement supérieur. Donc je comprends, c'est très documenté ce qu'il dit. Mais j'aime pas qu'on s'exprime comme ça, parce que je pense que notre pays
ça nourrit la guerre,
absolument pas besoin, voilà. Et je déteste cette idée qui consiste à opposer les salariés aux retraités. Voilà. Alors bien évidemment que nos retraites, quand vous regardez la part de la dépense publique qui est prise par les retraites, c'est un sujet.
Hier, on célébrait le jour de libération des actifs.
Oui, mais moi j'aime.
Je vous conseille pour dire que du 2 janvier au 4 mai, on paye uniquement, on travaille uniquement pour financer la retraite.
Oui, d'accord, mais enfin le jour de libération, vous pouvez le faire surtout. Hein, vous pouvez faire le jour de libération de tout ce que vous voulez. Vous avez le jour de libération par rapport à la fiscalité, le jour de libération, etc. Donc, mais juste la question des retraites. Il a raison, hein, François Villeroy de Gallo. Hein, le sujet, il est massif. Mais si nos parlementaires ont trouvé intelligent de mettre en pause la réforme des retraites, c'est pas la faute des retraités, hein, et ils avaient rien demandé.
Absolument.
Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur de politique économique absolument gigantesque et qu'on va payer ces prochaines années. C'est pour ça que cette idée de conflit entre générations, je suis pas sûr qu'elle ait des débouchés en termes politiques qui servent l'intérêt général.
Et dans un silence assourdissant, parce que ce que dit François Villeroy de Gallo, en creux, en tout cas tel que je le comprends, c'est pas uniquement sur les retraites dont on discute abondamment ici, oui, mais c'est aussi qu'on a bazardé notre système éducatif sur les 25 dernières années.
Accessoirement.
Et que ça, on le mesure très mal, mais c'est criminel de faire ça. Oui. Enfin, un pays à long terme, il converge vers son score PISA. Hein. Enfin, c'est quand même à peu près ça. Et c'est terrible, parce que là, on voit bien qu'on a quand même sous-investi massivement, qu'on a 10 000 problèmes sur lesquels je vais parvenir. Mais ça, cette thématique de l'éducation dans le futur, elle doit être absolument au cœur des réflexions. C'est vrai que le débat public passe complètement à côté des sujets de formation, d'éducation. Et ça, c'est quand même terrible. Enfin, je veux dire, là-dessus, on a un vrai sujet.
Rex Ecot, je voulais qu'on en touche un mot justement dans cette perspective du débat public. Évidemment, la campagne a débuté, on a un an de la présidentielle. Vous lancez une initiative avec le quotidien L'Opinion dans le cadre de cette campagne. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste.
Tout à fait, Raphaël. Bah, juste après, on va parler de la taxation des surprofits. Bah, c'est typiquement pour éviter ce genre d'ineptie qu'on lance une initiative avec L'Opinion, consistant à dire, on voit bien que l'entreprise qui pourtant est remplie de solutions, on travaille avec elle tous les jours, c'est elle qui propose quand même les solutions pour justement garantir un avenir à la fois prospère et où tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment elle qui les porte, ces solutions-là. Et elles sont la variable d'ajustement aujourd'hui de quasiment tous les choix parce qu'elles ne votent pas et que leur voix est peu entendue. Et ce qui nous frappe aussi, c'est que l'entreprise aujourd'hui est probablement le seul acteur qui est crédible dans le débat public. Moins que le politique, il n'arrive plus du tout à être audible. Et c'est aujourd'hui dans l'entreprise que les salariés, en tout cas, s'estiment le plus heureux, ou a fortiori le moins malheureux. On peut le voir un peu comme on veut. Et donc, on a décidé de lancer cette initiative où tous les mois, on aura un rendez-vous avec les dirigeants, avec les communicants, les leaders d'opinion, pour les aider, tous ceux qui veulent s'exprimer, prendre la parole dans le débat, de manière à éviter que les slogans, que la démagogie prospère, parce qu'on le voit bien dans les programmes politiques, et peu importe d'où ils viennent, la plupart sont mal bouclés, reposent sur des recettes fantaisistes, donc c'est remettre un peu de rationalité dans le débat économique et faire en sorte que l'entreprise redevienne quand même un sujet sur lequel, en réalité, il faut s'appuyer sur l'entreprise et non pas en faire une variable d'ajustement. Donc on le lance en juin et ça nous portera jusqu'à l'élection présidentielle et même bien au-delà.
Et avec des chefs d'entreprise qui s'engagent de plus en plus, hein, on a beaucoup de mouvements qui sont en train d'émerger
Non, non.
Ah, pas d'accord, Nicolas.
Non, pas assez. Ah, non, 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 je trouve, moi, je suis très... Mais vraiment, je salue, c'est formidable, hein, cette initiative, hein, je salue à fond. Non, non, je trouve que les chefs d'entreprise, ils arrivent en général à la fin de la bataille, dans tous les débats.
Mais ça
sur la taxe Zucman. Non, mais j'espère que ça va changer, parce que, moi, je suis du côté des entreprises, mais enfin, parfois, avec quelques amis, Olivier Babot et autres, on se dit, on se sent un peu seul, hein, quand même, hein, face à la taxe Zucman. On sait quand même, on n'était pas très nombreux à se battre, et moi, je pense que c'est bien aussi si ce sont les dirigeants d'entreprise eux-mêmes, comme vous voulez le faire, qui explique les enjeux, qui explique pourquoi on a besoin d'actionnaires, pourquoi les dividendes, c'est pas la fin du monde, pourquoi il faut des profits, pourquoi quand on fait des super profits, éventuellement ça peut faire des super investissements et des super embauches. Donc moi, les super profits, je trouve ça super, justement. Je rêverais que toutes les entreprises en fassent. Je trouverais ça génial, vous voyez. Mais ça, bon, nous on le dit, c'est bien. Mais non, non, je pense que les chefs d'entreprise, parce que c'est un peu facile de dire... oui, mais nous, on veut pas s'exposer, on a peur, etc. Et après, de constater que le Parlement, finalement, tout ce qu'il trouve à faire pour boucler le budget, c'est une taxe sur les entreprises. Il faut aller un peu au combat médiatique.
Mais il faut reconnaître que très souvent, quand elles ont pris la parole, ça peut leur attirer des ennuis. Et parfois, c'est difficilement gérable. Enfin, il y a plus de coûts que de gains. C'est en train de changer. Je pense que voilà, faut que tout le monde porte cette initiative. Nous, on va prendre notre part. On va augmenter le niveau d'engagement. Bravo. Et c'est vraiment nécessaire en vue de 2027 et même après, probablement, parce que 2027 ne sera pas la fin de l'histoire, loin de là.
Très certainement. Alors, c'est sur profit, justement, Dorothée Rouzet. On en parle en ce moment du côté des pétroliers, bien sûr. Hier, Emmanuel Macron a durci le ton contre les compagnies pétrolières. Les Européens devront réagir si des profits excessifs ou des comportements prédateurs étaient constatés. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui très factuellement, très sobrement, du côté des marges des pétroliers et des distributeurs? Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Est-ce qu'il y a des excès?
Alors, je vais pas caractériser ce qui est un excès ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut voir que c'est quand même une situation qui est mouvante. Et il y a différents types de marges, je dirais, entre le pétrole extrait et le pétrole à la pompe, et le carburant à la pompe. Il y a sur la partie extraction, je dirais évidemment que les marges des pétroliers, enfin les profits des pétroliers augmentent sur la partie extraction. Ça coûte toujours autant d'extraire un litre de pétrole. Si le prix augmente mécaniquement...
À 120 dollars, c'est le prix du marché.
Après, ce profit-là, il n'est pas en France, hein, puisque ce n'est pas chez nous qu'on extrait le pétrole. Donc les vérités, je dirais, de le taxer ne marcheront pas. Ensuite, il y a les marges de raffinage et les marges de distribution. Alors les marges de raffinage, elles fluctuent. Elles n'ont pas, dans ce qu'on observe, particulièrement augmenté depuis le début de la crise en Iran. En revanche, si on compare à avant 2022, elles ne sont pas revenues non plus à leur niveau. Enfin, elles sont toujours supérieures au niveau qu'elles avaient avant 2022.
Oui.
Normal, anormal, j'en sais rien. Et de même pour les marges de distribution, elles ont augmenté assez fortement, en fait, mais sur les 10 dernières années. Mais elles n'ont pas particulièrement augmenté sur les deux derniers mois. Donc là encore, qu'est-ce qu'on caractérise comme normal, anormal, je sais pas. Évidemment, localement, je dirais, il y a des distributeurs qui peuvent abuser. Ça, c'est un peu le rôle de la DGCCRF, oui, le rôle des contrôles, de voir si localement certaines
stations abusent. Et de la juste concurrence,
abusent,
on a envie de dire, parce que ça se régule par soi-même.
Après,
tout ça.
Je dirais, ça dépend, parce que je dirais la concurrence, quand vous êtes en ville et qu'il y a une station-service tous les 200 mètres, ça marche assez facilement.
Oui.
Quand vous êtes à un endroit où il y en a une à 50 km à la ronde, évidemment, vous allez plus difficilement aller en chercher une autre parce qu'elle est moins chère. Mais malgré tout, je dirais qu'il peut y avoir des pratiques isolées, mais au niveau agrégé aujourd'hui, sur les marges de distribution, on n'a pas particulièrement constaté
pas d'excès constaté.
Mais ça reste un point de vigilance important parce que c'est quand même important pour les consommateurs et évidemment un point sensible politiquement.
Sujet très politique, peut-être beaucoup plus politique qu'économique. En 2022, fin 2022, on parlait de la CRIM à l'époque, la contribution sur les rentes inframarginales. Ce débat, on l'a déjà eu, hein, sur les surprofits au sortir de la crise, Anthony Morlaix-Lavidali. Cette CRIM, elle devait rapporter 12 milliards au départ. Ça a fini à 300 millions de recettes au final.
Oui, complètement. Alors déjà, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et deuxièmement, c'est effrayant de voir ce débat revenir parce que ça montre encore une fois qu'on n'est pas du tout rationnel dans le débat économique. Quand on est un pays importateur net d'hydrocarbures, donc on n'en produit pas sur le sol ou que très marginalement, par définition, en fait, la nation perd du pouvoir d'achat. On fait une facture au reste du monde et a fortiori les producteurs d'hydrocarbures et a fortiori les États-Unis aujourd'hui. À partir de là, il n'y a pas de trésor caché en France. Alors après, on peut toujours se battre en essayant de se dire, mais il y a pas très, on perd juste tout le monde. Alors les finances publiques, malheureusement, vont être impactées par la situation. Les entreprises, certaines vont probablement avoir des problèmes de marge très rapidement. Les ménages vont perdre en pouvoir d'achat. Tout le monde va prendre sa paume. Après, question, c'est comment on se répartit la facture. Mais il faudrait pas laisser imaginer qu'il y a un trésor je ne sais où.
Et y compris du côté de l'État, c'est quelque chose qui circule beaucoup.
Oui, mais c'est complètement faux. Tout le monde va y perdre dans cette affaire.
l'État est profiteur. Oui, en 20 secondes, Nicolas, un dernier mot là-dessus.
De toute façon, c'est atavique en France. Hein. On voit des profits, on voit qu'ils augmentent, on veut tout de suite les taxer, pousser la réflexion beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Je veux dire, là, c'est toute la question de la pédagogie économique, en effet, qu'on doit faire. Total Energy, je peux en parler librement, ils font pas partie de mes clients, mais Total Energy, par exemple, c'est une boîte qui investit, quand vous regardez les rapports annuels, entre 3 et 5 milliards d'euros par an dans les énergies bas carbone.
Ça peut servir.
J'espère qu'ils le
fassent
et même s'ils fassent plus. Hein, donc, s'ils font des super profits pour faire des super investissements bas carbone, bravo et merci. Hein.
Bravo et merci. Voilà le mot de la fin. Merci à tous les trois aussi pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay.